Silcast présente l'analyse longue, thème du jour géopolitique, avec Sacha et Alex. Bonne écoute.
Ce qui me frappe en lisant la presse ce matin, Alex, c'est qu'on est dans une phase très particulière du dossier iranien. La guerre de février a eu lieu, le cessez-le-feu d'avril tient à peu près, et là, on vit la séquence où Trump rejette publiquement la contre-proposition iranienne. Et autour de ça, trois textes qui se parlent. Le papier de Philippe Brevi dans Le Monde Diplo sur la banalisation du discours génocidaire de Trump, l'enquête de Michael Klar dans le même journal sur la recomposition énergétique mondiale et le live du Guardian d'hier qui acte le rejet de la réponse iranienne. J'ajoute en contrepoint un texte de Liris sur l'Ukraine parce qu'il éclaire en creux ce qui se joue au Moyen-Orient.
Et la thèse d'ensemble, si je te suis, c'est que la guerre de février n'est pas vraiment finie, qu'elle a juste muté en blocus, en chantage énergétique et en menaces verbales qui sont devenues du décor.
Exactement. Une guerre qui se prolonge par d'autres moyens, et surtout une guerre dont les États-Unis tirent un dividende structurel qu'on commence seulement à mesurer.
Commençons par le Guardian, alors, parce que c'est l'actu chaude. Hier, Trump lit la réponse de Téhéran à la proposition américaine, et il poste sur Truth Social « Totally unacceptable ». Ce qu'il faut rappeler, c'est ce qu'il y avait dans la proposition américaine. Un mémorandum d'une page 14 points qui rouvrait Hormuz et ouvrait un cadre de négociation sur le nucléaire. Et la contre-proposition iranienne, telle que rapportée par les médias d'État là-bas, demandait la levée des sanctions, la fin du bloc naval et des garanties contre toute nouvelle attaque.
Ce qui n'est pas déraisonnable du point de vue iranien, soyons clairs. Ils ont été bombardés en février, leurs ports sont sous blocus depuis le 13 avril. Le Guardian rappelle que la marine américaine revendique avoir refoulé 61 navires commerciaux et désactivé 4. Donc Téhéran négocie sous occupation maritime et demande la levée de cette occupation. Et Trump répond que c'est inacceptable.
Et derrière, Netanyahou qui remet une pièce dans la machine en disant que la guerre continuera tant que l'Iran a son stock d'uranium hautement enrichi. Donc on a la séquence classique, proposition américaine minimaliste, refus iranien des conditions léonines et Israël qui pousse à la reprise des frappes.
Avec un détail qui n'est pas anodin, Trump dit à Axios que les négociations avec l'Iran, je cite, « c'est ma situation, pas celle des autres ». Il assume une diplomatie personnelle, court-circuite Netanyahou tout en lui téléphonant, court-circuite les Européens, qui d'ailleurs organisent mardi à Londres une réunion à 40 pays sur la réouverture d'Hormuz. Réunion à laquelle Téhéran a immédiatement répondu en menaçant de frapper les navires britanniques et français.
Donc on est à un moment où une étincelle suffit, et pendant ce temps-là, le Brent grimpe de 4% sur l'annonce à 105 dollars le baril, ce qui nous amène pile au papier de Klar.
Oui, et Klar a une thèse forte qu'il faut prendre au sérieux. Il dit « la guerre de février a déclenché deux offensives, une planifiée contre les infrastructures iraniennes et une autre, je le cite, apparemment fortuite, contre le système énergétique mondial. » Le mot « apparemment » est essentiel.
Pense que c'était pas fortuit.
Je pense que Klar lui-même en doute, parce qu'il enchaîne immédiatement sur le fait que Trump exploite la situation. Il cite ce post de Truth Social du 31 mars, où Trump dit aux pays qui ne trouvent plus de kérosène à cause d'Hormuz d'en acheter aux Américains, « on en a des tonnes ». Et son administration démarche activement les pays asiatiques pour leur vendre du GNL américain. Les Philippines en état d'urgence énergétique, la Corée du Sud qui plafonne les prix, des écoles qui ferment ailleurs. C'est un transfert de dépendance.
C'est ça qui me sidère. Le Golfe fournissait l'Asie, principalement. Et là, par la fermeture d'Hormuz et par le blocus américain des ports iraniens, on substitue mécaniquement une dépendance au Golfe par une dépendance aux hydrocarbures américains. C'est un coup de force commercial déguisé en crise géopolitique.
Et ça, sur le temps long, ça change tout. Parce que le coût politique de cette guerre pour les États-Unis se trouve compensé, voire surcompensé, par la rente énergétique qu'ils captent. Les ménages américains modestes souffrent à la pompe, Klar le note, mais les grands producteurs et exportateurs de GNL américains font une affaire historique. C'est de la guerre comme accélérateur d'accumulation, au sens très classique du terme.
Et tu fais le lien avec l'article de Liris. Je crois que je devine pourquoi.
Elle enrichit conjoncturellement la Russie, elle subordonne énergétiquement l'Asie aux États-Unis.
Et l'Iris dit aussi un truc intéressant. Poutine n'a pas saisi l'opportunité de négocier avec Trump, qui lui proposait la levée des sanctions contre un statu quo territorial. Donc on voit la méthode Trump partout. Une proposition courte, un ultimatum, et si l'autre refuse, on laisse pourrir. Iran, Russie, même grammaire.
Mais avec une différence cruciale. La Russie, selon l'IRIS, s'épuise. Chute d'Assad en Syrie, recul au Mali face au JNIM et au Fela, perte d'influence en Asie centrale. L'Iran, lui, est encerclé mais reste capable de bloquer Hormuz, c'est-à-dire de tenir un levier mondial. Le rapport de force n'est pas le même.
Ce qui nous amène à Breville. Et c'est là que ça devient inconfortable. Parce que Breville revient sur cette journée du 7 avril où Trump a posté ce message. Une civilisation va mourir ce soir pour ne plus jamais renaître, en visant l'Iran et ses 90 millions d'habitants, avec une heure précise, 20 heures à Washington.
Et c'est un texte sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, parce qu'il dit quelque chose de très grave sur notre rapport collectif au langage. Breville rappelle qu'à Nuremberg, en 1946, Julius Streicher, qui n'avait ni exécuté ni ordonné personnellement de massacre, a été condamné pour crime contre l'humanité parce qu'il avait incité publiquement à l'extermination. Et que depuis, l'incitation directe et publique au génocide est explicitement prohibée par le droit international.
Et Breville rappelle aussi qu'il y a 15 ans, les Européens ont invoqué les déclarations de Kadhafi promettant des rivières de sang pour justifier une intervention en Libye. Donc on sait prendre les mots au sérieux quand ça arrange. Et là, Trump annonce un génocide, et personne ne dit rien. Von der Leyen muette, Kallas muette, Barrot qui parle d'imprévisibilité, Obama qui tweet sur du basket universitaire.
Et c'est ça le scandale de fond. Breville parle d'accoutumance au pire. Mon analyse est plus dure. Ce n'est pas seulement de l'accoutumance, c'est un alignement de fait. Les chancelleries européennes ne se taisent pas parce qu'elles sont sidérées. Elles se taisent parce qu'elles ont besoin du GNL américain, parce qu'elles dépendent du parapluie sécuritaire de l'OTAN, parce qu'elles ont accepté il y a longtemps de subordonner leur politique étrangère à Washington. Le silence est structurel, pas psychologique.
Et Breville a cette phrase qui me poursuit. Trump n'a finalement pas exécuté la menace, mais ses mots ont fait leur œuvre, ils ont repoussé les frontières du dissible et déjà commencé à tracer celles du possible. Donc, même quand le génocide n'a pas lieu, l'annonce du génocide a une fonction politique.
Elle normalise. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, le 12 mai. Trump rejette la proposition iranienne, menace implicitement de reprendre les frappes, et tout le monde commente comme s'il s'agissait d'une renégociation commerciale. Plus personne ne rappelle ce qu'il a posté le 7 avril. Le seuil a bougé.
Et c'est là que Breville rejoint Clark sans le savoir. Parce que si les mots redéfinissent ce qui est possible, et si parallèlement économiquement une nouvelle dépendance énergétique se construit au profit des États-Unis, alors la guerre contre l'Iran n'est pas un événement, c'est un dispositif qui dure, qui produit des effets et qui se naturalise.
Voilà. Et si on essaye de tirer une lecture transversale, je dirais ceci. On assiste à la consolidation d'une économie de guerre américaine où l'Iran sert d'épouvantail permanent. Pas nécessairement détruit, mais maintenu sous blocus, périodiquement frappé, et utilisé comme variable d'ajustement pour reconfigurer le marché énergétique mondial au bénéfice des hydrocarbures américains. Ce que Trump a annoncé le 7 avril n'est pas une menace en l'air. C'est l'horizon assumé du dispositif. Le génocide n'a pas eu lieu, mais sa possibilité est désormais un outil de négociation.
Là où je serais peut-être un peu moins fataliste que toi, c'est sur la capacité iranienne de tenir Hormuz. Tant que ce levier existe, le rapport de force n'est pas totalement asymétrique. Et les pays asiatiques qui souffrent de la crise vont à un moment se demander si l'arrangement leur convient vraiment. La subordination énergétique aux États-Unis n'est pas une fatalité géologique.
D'accord avec toi sur le principe, mais à court terme, ce que montre le Guardian, c'est que ce sont la France et le Royaume-Uni qui organisent la réunion sur Hormuz, pas la Chine, pas l'Inde. Donc, les puissances qui prennent la main pour ouvrir le détroit sont alignées sur Washington. Et Téhéran menace de les frapper. On est dans un engrenage.
Et la question qu'on garde ouverte pour les jours qui viennent, c'est est-ce que la réunion de mardi à Londres produit un cadre de désescalade ou est-ce qu'elle sert de prétexte à une nouvelle phase de confrontation militaire, sachant que Netanyahou pousse et que Trump vient de claquer la porte de la négociation.
Et qu'on aura tous, mardi soir, le choix entre Koh-Lanta et un bandeau BFM qui décompte un ultimatum, comme une journée comme une autre.